vers la fin du 19e siècle, dans la ville d'Édimbourg, il y avait un pasteur qui s'appelait Alexander White. Il avait un cœur pour les gens, un cœur pour la parole de Dieu, et son église n'était pas toujours pleine. Alors un jour, il a décidé de faire une annonce de son sujet de culte le dimanche suivant. Il a fait publier dans le journal, il a dit à tout le monde, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, bien sûr, mais il voulait que l'église soit pleine. Le dimanche est arrivé et l'église était pleine à craquer parce que le sujet qu'il avait annoncé était le suivant. Qui est le plus grand pêcheur de la ville d'Édimbourg? Tout le monde est venu, pas toute la population. Mais les gens disaient, mais est-ce qu'il va dévoiler le nom d'une personnalité politique? Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un du monde et des arts? Ou est-ce qu'il s'agit d'un homme d'affaires? Ou mieux, quelqu'un de la famille royale? Le plus grand pêcheur d'Édimbourg, c'était ça le sujet. Alexander White se lève pour prêcher. Il dit, le plus grand pêcheur de la ville d'Édimbourg s'appelle Alexander White. Il cite Paul à Timothée. Le plus grand pécheur sera. Et puis, il explique que bien que pécheur, Dieu l'a pardonné. Et il met tout le monde au défi. Vous êtes tous pécheurs. Et vous avez tous besoin d'être pardonnés. Certaines personnes qui sont venues au culte ce jour-là étaient très déçues. Ils voulaient avoir un peu de scandale, de commérage à la canard enchaînée. Mais, malheureusement, ils étaient déçus. Alors, ce matin, ici à Sonora. Si vous m'écoutez, et je ne vois personne, mais si vous m'écoutez sur Zoom ou si vous êtes présent ici à Sonora, si vous êtes venu pour m'entendre faire un discours sur tous les aspects de l'immoralité sexuelle, un discours sur l'homosexualité et que sais-je encore, vous allez être déçu. D'abord, je ne vais pas faire le discours. Je vais faire une prédication, un enseignement sur un texte biblique. Ce texte biblique, certes, parle de l'immoralité sexuelle, parle de l'homosexualité et d'autres choses, mais ce texte ne parle pas que de ça. Dans ce texte, il y a principalement trois sujets. Donc, je vous invite à trouver 1 Corinthiens, chapitre 6. Alors, si vous allez être déçu, je vous encourage et je vous prie de ne pas vous déconnecter de Zoom. Et ceux qui sont ici présents, je vous encourage de ne pas en profiter pour piquer un petit somme. 1 Corinthiens, chapitre 6. Nous allons lire ce texte en 3 temps. Et ce texte a 3 sujets. Il est question du tribunal. C'est-à-dire des conflits entre frères et sœurs. Il est question de transformation, c'est-à-dire un changement de comportement lorsque quelqu'un se convertit. Et il est question du temple, c'est-à-dire du corps humain. Tribunal, conflit, transformation, comportement, temple, corps. Je propose qu'on commence la lecture. 1 Corinthiens chapitre 6, je vais lire d'abord versets 1 à 8. 1 Corinthiens 6, verset 1 jusqu'au verset 8. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les affaires de la vie courante? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers des frères et sœurs que vous agissez ainsi. Nous poursuivons donc notre série de prédications dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. Dans l'église de Corinthe, ce n'était pas une église parfaite, d'ailleurs ça n'existe pas ici-bas. Dans l'église de Corinthe, il y avait des tensions parmi certains chrétiens. Il y avait des conflits, des disputes, des frictions entre les membres. Certes, ils étaient tous des chrétiens, mais il y avait des différends, des différences, des difficultés de compréhension, et ces difficultés faisaient naître des disputes, et parfois des disputes graves. À tel point que certains chrétiens ont même emmené d'autres chrétiens au tribunal pour régler leurs disputes. Paul dit, mais c'est une honte d'emmener un frère ou une sœur au tribunal à cause d'une dispute. Il dit, c'est un échec complet de relation fraternelle d'en finir devant un juge. Il dit même, mais vous les chrétiens, c'est vous qui allez juger avec le Seigneur les habitants de la terre. C'est illogique de vous laisser juger par un juge païen comme vous avez des différends. J'apporte une petite précision avant que quelqu'un m'interrompe. Si jamais au sein d'une église, il y a des délits ou des crimes, abus sexuels, pédophilie, meurtre, trafic de drogue, etc., les membres de l'église sont obligés de faire quoi? Prier que ça disparaisse? De dénoncer. Sinon, on tombe dans des revers, les travers de certains responsables de l'Église catholique qui n'ont pas dénoncé certains crimes, certains délits. Ici, dans ce texte, on ne parle pas des crimes et des délits, on parle des conflits, des histoires, des babioles parfois, des tensions. Alors, la question qui s'impose, donc j'ai fait une parenthèse, la question qui s'impose, c'est mais que faire quand il y a un accrochage entre moi et un frère ou une sœur? Alors, je vais vous parler des 5 D. Les 5 D. Je suis conscient que j'ai un différent. Je suis en tension avec Monsieur X. Qu'est-ce que je dois faire? Premier D, je dois déjà définir le problème. Admettre qu'il y a un problème. Deuxièmement, décider de traiter le problème. C'est une chose de dire, ah, j'aime pas frère X, il ne m'aime pas, point. Non, si on est frère, on doit traiter le problème, attaquer le problème. Pas attaquer le frère, hein. Attaquer le problème. Troisième D, développer une ou des solutions. Que faire pour mettre fin à ces conflits avec ce frère, avec cette sœur? Quatrième D, dresser un plan d'action. OK, je vois le problème, j'admets, j'ai un problème. Maintenant, je vais essayer de régler ce problème. Un email, un coup de fil, un courrier, etc. Et puis ensuite, cinquième D, discuter. Sixième D, j'ai dit qu'il y a 5, à vrai dire, il y a 6. Dialoguer, discerner comment faire pour mettre fin à cette situation. Ça, c'est beau. Ça, c'est la théorie. Malheureusement, David, oh, c'était peut-être pas David qui a écrit le psaume 120, mais David a dit, oh, le psaume, l'auteur du psaume 20 a dit au verset 7, le psaume 120, verset 7, « Je suis pour la paix, mais eux, ils sont pour la guerre. » Et malheureusement, quand on réfléchit, il y a des chrétiens qui aiment la guerre plus que la paix, qui ne veulent pas se réconcilier. Ça, malheureusement, fait partie de la vie. Les 5 D, si je sais Je dis, je suis en tension avec mon frère ou ma soeur, je dois agir. Après les 5D, les 5R. Si j'ai fait mal à mon frère, à ma soeur, je dois aussi agir. Il y a les 5R. Je dois regretter du mal que j'ai fait. Et encore, c'est facile de dire ça, mais plus difficile à faire. Regretter que je lui ai dit, que je lui ai fait de mal. Deuxièmement, je dois dire c'est ma responsabilité. Ça veut dire, je ne vais pas dire je lui ai fait du mal, mais c'est sa faute. C'est ma faute. Le feuillet de méditation quotidienne d'aujourd'hui parle de cela justement. Le fait de s'humilier devant un frère ou une sœur, un feuillet de Bob Souza. On doit s'humilier et dire, mais c'est ma faute. Et puis, si c'est possible, restituer le mal. Alors, si on a volé quelque chose, on peut parfois restituer. Ou si on a dit quelque chose sur un frère ou sur une sœur qui est faux, on doit dire en public ou écrire la vérité pour rendre la réputation, si c'est possible. Ce n'est pas toujours possible. Quatrièmement, je dois aussi me repentir sincèrement. Regretter, c'est une chose. Se repentir, c'est vraiment autre chose. Et puis, si c'est possible, si la sœur ou le frère en question est prêt, je dois faire une requête et dire, s'il te plaît, pardonne-moi. Si on commence par demander pardon, c'est un pardon à la va-vite, une demande à la va-vite, à la trop vite, et ce n'est pas très profond. Il y a des étapes que je propose à respecter. Il faut qu'on se réconcilie. On est frères et sœurs, on va passer l'éternité ensemble. Et ici-bas, on doit aussi réfléchir. Ça veut dire que je parle de moi, bannir des mauvaises mentalités, des mauvais raisonnements. Je peux dire, mais c'est moi le plus vieux. Ce jeune m'a offensé, c'est à lui de venir de moi du pardon. Je suis le frère aîné. Dans l'Église, ça ne marche pas comme ça. Autre mentalité à rejeter, ah ben c'est elle qui a tout commencé. Ah ben ce n'est qu'à elle de venir me voir. Dans l'Église, ça ne marche pas comme ça. Autre raisonnement à rejeter, ah ben je veux protéger mes droits, ma famille, ma face. Dans l'Église, ça ne marche pas comme ça. Même si certains croient que ça marche comme ça. Ce n'est pas ma famille ou mon, ma face ou ma réputation qui compte. Jésus a dit, Matthieu 6, 33, cherchez d'abord ton royaume ou son royaume? Son royaume. Sa volonté. J'avais pensé faire un discours sur les oiseaux qui peuvent nous apprendre des choses. Je mentionne vite fait, nous ne devons pas ressembler au coucou. Vous savez, le coucou vient dans un nid, il pousse dehors les oiseaux qui étaient là avant. Bulldozer. Un chrétien bulldozer n'agit pas selon le Saint-Esprit. Nous ne devons pas agir comme des faucons, des oiseaux de proie qui attaquent. C'est facile d'attaquer un frère et une sœur. Vous savez, l'animal le plus rapide du monde, c'est le faucon pèlerin. Voilà, merci. Le faucon pèlerin. 360 km/h. Il voit depuis là-haut sa proie, il attaque. Et malheureusement, il y a des chrétiens faucons pèlerins qui aiment attaquer. On ne doit pas ressembler aux faucons. On doit ressembler non plus aux autruches. Il n'y a pas de problème. On enterre sa tête, on ne sait pas trop longtemps, hein, parce que si on a du mal à respirer, il y aura un problème. Mais non, on ne doit pas être comme l'autruche. On ne doit pas ressembler non plus à l'aigle, l'orgueil, qui regarde tout le monde de haut. Je suis le plus beau, je suis le roi des oiseaux. Des oiseaux plutôt. Non. On doit plutôt ressembler à la colombe, symbole de la pureté, symbole de la paix que certaines associations non chrétiennes ont pris comme symbole. On doit ressembler au signe fidèle à son partenaire? Est-ce que nous sommes fidèles à nos frères et sœurs? Vous savez, il y a quelques jours, un TGV était bloqué une heure en pleine campagne parce que sur les voies, il y avait un signe mort et son partenaire ou sa partenaire était à côté et refusait de bouger. Pendant une heure, le TGV était bloqué jusqu'à ce qu'il fasse venir les services vétérinaires, les gendarmes, pour enlever le signe vivant parce qu'il ne voulait pas abandonner son partenaire. Ça, c'est beau. On doit aussi ressembler au corbeau. Qu'est-ce qu'il dit le corbeau? Croix, 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 croix. Je ne suis pas très fort dans l'imitation des oiseaux. Mais en tout cas, tout ça veut dire qu'il y a des mentalités, des raisonnements à avoir, des mentalités, des raisonnements à chasser. Le diable aime semer la zizanie. C'est un terme biblique, la zizanie. Et nous, en tant que chrétiens, on doit avoir les yeux ouverts, le cœur ouvert, pour demander pardon quand il le faut, pour se réconcilier quand il le faut. Nous passons au paragraphe suivant. Transformation. 1 Corinthiens 6, versets 9, 10 et 11. 1 Corinthiens 6, 9, 10 et 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompiez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes. Tiens, on dirait que l'apôtre Paul était au culte ce matin. Vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Transformation. Tout chrétien a un autre foi et aujourd'hui. Parfois, l'autre foi est radicalement différente du aujourd'hui. Parfois, ce n'est pas toujours un changement radical. Mais aux yeux de Dieu, le changement est toujours radical. Parce qu'il nous adopte de la famille de Satan, notre père autrefois, il nous met dans la famille de Dieu. Et Dieu devient notre père. Nous sommes tous des nouvelles créatures. Dieu a gommé le passé. Il a transformé notre avenir et notre présent. Paul ici dresse une liste d'offenses, une liste de péchés. Il y a d'autres listes dans Galates 5, 1 Timothée 1, Apocalypse 21. Et certaines personnes qui commettaient ces péchés étaient passibles de la peine de mort selon la loi de Moïse. Ça montre à quel point certains péchés ici sont graves. Et Paul dit, vous étiez comme ça. Mais, M-A-I-S, trois fois, revient dans cette phrase. Mais, vous avez été lavés, nés d'eau et d'esprit. Jean 3. Vous avez été sanctifiés ou déclarés saints. Et vous avez été justifiés, déclarés justes, comme nous avons vu au début du culte. Juste ce mot, vous avez été déclaré saint, la sanctification est aussi une doctrine biblique. Et il y a deux aspects de la sanctification. Il y a ce qu'on appelle la sanctification définitive, c'est-à-dire quand quelqu'un se convertit, Dieu nous sanctifie, c'est-à-dire qu'il nous met à part pour lui. Ça, c'est définitif, une fois pour toutes. Et puis, il y a la sanctification progressive. Lorsque pendant toute la vie du chrétien, Dieu transforme le caractère, la personnalité, le cœur du chrétien pour que ce chrétien ressemble de plus en plus à Jésus. Mais le problème, c'est parfois que les chrétiens n'aiment pas être transformés. Et c'est là où il y a parfois une lutte dans la vie du chrétien. Mais Dieu veut nous sanctifier et nous transformer. Nous sommes des nouvelles créatures. Istéphanus, Johannes, Uziel, Néhémie et Ebenezer sont 4, 5 frères nigérians que j'ai connus autrefois qui ne sont pas nés avec ces 5 prénoms. Mais le jour de la baptême, pour montrer qu'ils étaient déjà convertis, le jour de la baptême, ils ont reçu des nouveaux prénoms pour montrer le passé, c'est le passé. Et aujourd'hui, toi, tu t'appelles Istéphanus, toi, tu t'appelles Néhémie, etc. Des nouveaux noms pour des nouvelles créatures en Christ. Et Jackie, elle n'est pas une Nigériane, mais elle est une Américaine et son livre de témoignage est sorti il y a 1 an, ou 18 mois peut-être maintenant. Ça s'appelle Jackie, une femme homosexuelle qui s'est convertie et qui explique dans son livre le comment et le pourquoi de son homosexualité et le comment et le pourquoi du changement radical dans sa vie. Jackie, édition clé, disponible dans les bonnes librairies évangéliques. Et nous avons 2 ici à lire. Transformation. Maintenant, nous allons lire le texte suivant. Temple. 1 Corinthiens 6, verset 12 à verset 20. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Je répète ça. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Or Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Je répète, fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Temple. Il est question du temple. Du temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire du corps. Dans la ville de Jérusalem, il y a eu le temple de Salomon, détruit en partie, reconstruit par Esdras, détruit en partie, reconstruit par le roi Hérode. Et c'est de ce temple-là qui existait à Jérusalem à l'époque du Seigneur Jésus. Dans la ville de Corinthe, il y avait au moins 2 temples, le temple d'Apollon et le temple d'Aphrodite. Alors, Apollon, je ne vais pas vous donner un cours d'histoire grecque, mais Apollon, c'était le dieu des arts, du chant, de la musique, de la poésie, de la lumière, et, tenez-vous bien, il était aussi le dieu de la beauté masculine. No comment. Aphrodite était la déesse de l'amour et de la beauté. Au moins un, sinon les 2 temples, a employé des prostituées pour que les gens s'approchent du dieu ou de la déesse en couchant avec des prostituées. Hein? C'était monnaie courante. À tel point qu'au 1er siècle, on a inventé un mot, un verbe qui n'existait pas, corinthianiser. Ça n'existait pas avant. Mais c'était pour parler de ceux qui avaient des rapports sexuels avec des prostituées sacrées, entre guillemets, corinthianisées. Alors, quel est le lien entre ça et ce que Paul dit ici? Eh bien, tout simplement, dans le Nouveau Testament, le mot « temple » n'est pas seulement un bâtiment en pierre, mais c'est aussi une image, une figure, une métaphore employée par par le Nouveau Testament. Par exemple, Jésus parle de son corps comme étant un temple. Et ça fait scandale parce que les gens ont cru que Jésus allait détruire le temple d'Hérode et le reconstruire en 3 jours. Jean 2, mais Jésus parlait de son corps comme un temple. 1 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 6, Paul dit que l'Église est un temple parce que c'est là où Dieu habite. Mais ici, Paul va plus loin. Il dit que ton corps est un temple. Que le corps de Jésus soit un temple, ok, on comprend. Que l'Église dans l'ensemble est un temple, ok, Dieu y réside. Mais que mon corps soit un temple, c'est assez beau, ça. Ce qui veut dire que nous n'avons pas le droit de faire de notre corps ce que nous voulons. Malgré parfois des autocollants qu'on voit sur des voitures, c'est mon corps, c'est ma décision. Mais notre corps ne nous appartient pas. Alors, en ce qui concerne le corps, bien sûr, il est question de l'immoralité sexuelle. Alors, un peu de grec, il y a 3 mots employés dans le Nouveau Testament, principalement 3 mots qui sont traduits par le mot immoralité sexuelle et d'autres. Il y a le mot pornia, pornos et porneuo. 38 fois dans le Nouveau Testament, ces mots apparaissent. Soit ce sont des noms ou des verbes. Dans 1 Corinthiens 5, ces mots se trouvent 5 fois. Dans 1 Corinthiens 6, ces mots se trouvent 4 fois. Ces mots sont traduits en français par plusieurs mots et englobent plusieurs pratiques. Immoralité sexuelle, inconduite sexuelle, adultère, impudicité, fornication, un mot du 16e siècle peut-être, fornication, mais toujours d'actualité, inceste, homosexualité, prostitution et d'autres. Bien entendu, à notre époque, un autre aspect de l'immoralité sexuelle n'est pas mentionné dans la Bible. Vous savez de quel aspect je parle? La pornographie. Les écrans. Les écrits. Je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit en public. Certains savent que j'étais né dans une famille chrétienne, mais la première fois que j'ai eu une revue pornographique entre les mains, c'était à l'école primaire. Donc, il y a plus d'un demi-siècle. J'avais 10 ans. Si je dis ça, c'est pour dire que parents, surveillez vos enfants. Ça commence très tôt et ça abîme très tôt. Et deuxième chose, selon les statistiques, la pornographie ne concerne pas que des hommes, pas que des jeunes, pas que des vieux, mais de plus en plus de femmes deviennent esclaves, je dis bien esclaves, des écrans et des écrits pornographiques. Vous savez, la Bible envisage la sexualité comme un cadeau de Dieu, mais seulement dans les limites du mariage entre un homme et une femme. Avant le mariage, en dehors du mariage, les relations sexuelles sont appelées débauche, immoralité ou adultère. Ça peut toujours se trouver. Je ne suis pas un adultère, m'a-t-on dit plusieurs fois. Je suis avec ma copine ou avec mon copain. Mais le mot adultère signifie tout simplement avoir des relations sexuelles avec quelqu'un avec qui on n'est pas marié. Ça va loin. Pour être très terre à terre, les chrétiens qui couchent ensemble vivent dans l'adultère. S'ils ne sont pas dans les catégories, qui ne sont pas mariés, qui couchent ensemble, vivent dans l'adultère, l'immoralité. Et Paul s'adresse à eux en partie dans ce texte. En tant que pasteur, autrefois, pendant une trentaine d'années, nous étions pastoraux dans trois églises différentes, successives. Eh bien, dans certains cas, avec des anciens, nous avons refusé de baptiser certaines personnes parce qu'elles vivaient dans le péché, dans l'immoralité sexuelle. Certaines personnes nous ont traités de radicaux. Oui, David, tu vis au Moyen-Âge. Mais quand on lit la Bible, il y a quand même un minimum de critères par rapport au baptême. De même, nous avons parfois refusé d'officier à un mariage d'un couple qui couchait ensemble. Et on en est où là? On est sur quelle planète? Bien sûr, il y a eu une ou deux exceptions, vraiment exceptionnelles. Je ne vais pas expliquer que ça aujourd'hui. Mon sujet n'est pas le mariage, mais l'immoralité sexuelle. Mais nous devons être ouverts devant la parole de Dieu et conscients qu'il y a quand même des choses que Dieu exige. Et nous ne devons pas accepter n'importe quoi dans nos églises, parce que certaines églises évangéliques acceptent n'importe quoi. Et ça devient grave. Et je peux vous dire, je n'ai pas toujours les statistiques, j'ai déjà cité une statistique, mais une deuxième statistique nous apprend que les chrétiens et les non-chrétiens qui vivent ensemble avant de se marier risquent de divorcer après le mariage plus que les chrétiens qui se gardent purs jusqu'au mariage. Et je peux vous citer des exemples et des noms si vous voulez, mais je ne vais pas faire ça, bien sûr. Le péché sexuel, les péchés sexuels, c'est quelque chose de mauvais. Aux yeux de Dieu, il s'agit d'un péché. Et appelons un péché, c'est quelque chose qu'il maîtrise. Paul dit ici, je ne me mettrai pas esclave de quoi que ce soit. Et ceux qui sont esclaves de la pornographie et d'autres choses savent, mais je ne peux pas arrêter. Enfin, on peut, mais quand on est dans l'esclavage, on a du mal à voir clair. Et aussi, l'immoralité sexuelle, ça fait mal. Paul dit ici, ça fait mal déjà à son propre corps. Ça fait mal à l'entourage. Et ça fait mal surtout au Seigneur. Quand il voit ses enfants désobéir toute leur connaissance de cause. Pendant l'Exode, un jour, 23 000 personnes sont mortes en 24 heures à cause de l'immoralité sexuelle. C'est pire que la COVID au niveau mondial. On ne lit pas ça dans le livre de l'Exode, mais dans 1 Corinthiens, chapitre 10. 23 000 sont tombés en 24 heures. Pouah. Voilà, Dieu ne rigole pas avec l'immoralité. Pendant les troubles en Irlande du Nord, dans la ville de Belfast, capitale du pays, il y avait ce qu'on appelle des quartiers qui étaient no-go. Ça, c'est peut-être écossais, mais les Anglais disent ne-guerre. La reine parle comme ça. Et si, parce que là-bas, il y avait deux groupes, il y avait les indépendantistes et les loyalistes. Si j'étais loyaliste et j'allais dans un quartier où habitaient que les indépendantistes, je risquerais de me faire tuer sans me poser des questions. Et si j'étais indépendantiste et j'allais dans un quartier loyaliste, ah ben, je me ferais sauter par bombe ou tuer aussi. Parce que il ne fallait surtout pas aller. No go signifie ne pas y aller. Et la tentation sexuelle qui est si belle, si attirante, ce sont des régions no go. N'y allez pas. Qu'est-ce que j'ai lu deux fois, une phrase que Paul dit une fois? Fuyez l'immoralité sexuelle. Pour dire la même chose à Timothée, de fuir cette chose comme la peste. Et dans 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 4, verset 3, nous disons, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. S'abstenir, s'arrêter, fuir. Sinon, on se jette dans la gueule du lion. Et dans la gueule du lion, ce n'est pas très agréable. Et pour s'en sortir, c'est parfois un parcours de combattant. Avant de terminer, j'aimerais juste dire qu'il y a des chrétiens qui couchent ensemble avant le mariage. Ça, c'est presque, presque monnaie courante. Heureusement, ce n'est pas monnaie courante, mais ça s'évite de plus en plus, avec tout un tas de raisons. Ces chrétiens, ces couples-là, parfois, donc, ils se marient, ils ont des enfants, et parfois, des années plus tard, il y a, à force de grandir en Christ, il y a un sentiment de culpabilité. Et parfois, ils se disent, mais pourquoi je me sens mal? Et puis, c'est parce que le Seigneur est en train de mettre un doigt sur quelque chose. Et quand Dieu met un doigt sur quelque chose, ça fait toujours mal. Mais c'est toujours pour notre bien. Eh bien, si vous êtes dans ce cas-là, si vous me voyez, si vous m'écoutez, et si vous vous sentez coupable de quelque chose, eh bien, réglez ça au plus vite. N'attendez pas des années ou des mois pour confesser ça au Seigneur. Mais parfois, on a besoin de confesser quelque chose à un frère, à une sœur, juste pour le dire publiquement, pas publiquement, mais juste pour le dire à haute voix, à quelqu'un de confiance. Et puis, on se sent soulagé, apaisé, paisible, grâce au Saint-Esprit qui agit dans notre cœur. Donc, si ça concerne quelqu'un qui m'écoute, eh bien, je vous encourage à en parler à un ancien, à un responsable du groupe de jeunes ou à un autre chrétien mûr, pour que vous soyez libéré, pour que vous soyez apaisé et pour que vous puissiez aller de l'avant. Pour citer l'auteur anonyme de l'Épître aux Hébreux, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je termine. Ce texte parle, 1 Corinthiens 6, de l'importance de gérer et de régler nos conflits entre frères et sœurs. Je répète, il ne s'agit pas des crimes et des délits, mais des tensions, des frictions, des conflits, des disputes. Transformation. Il est important de se réjouir des changements dans notre vie depuis notre conversion. C'est Dieu qui transforme un cœur. Le temple, l'importance de veiller sur l'utilisation de notre corps et de fuir toute tentation dans le domaine sexuel. Toute tentation, point. Mais dans ce texte, c'est surtout dans le domaine sexuel. Dieu veut une église pure. Il veut des hommes et des femmes, des jeunes purs. Et c'est à nous de le laisser nous parler et nous transformer. Nous allons prier. Notre bon Père Céleste, merci car tu vois le cœur de chacun ici. Tu vois notre passé. Tu vois des erreurs, mais des péchés aussi. Tu vois les mauvaises décisions, les mauvaises pratiques, les mauvaises habitudes. Merci car tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui libère. Merci car plusieurs ici peuvent dire, Seigneur, tu m'as libéré de telle ou telle chose et tu te bénis pour cela. Mais nous savons que le diable est toujours à l'affût. Il est toujours prêt à nous sauter dessus. Seigneur, aide-nous à avoir les yeux ouverts. Aide-nous aussi à être prêts à nous réconcilier avec tel frère, telle sœur. Aide-nous à ne pas agir comme les oiseaux qu'on ne doit pas imiter, mais aide-nous à agir comme les oiseaux qu'on doit imiter, avec amour, fidélité et paix. Aide-nous aussi à avoir confiance en toi. Et nous te prions que dans le domaine sexuel, que tu nous aides à être fidèles si nous sommes mariés, être fidèles si nous ne sommes pas mariés, et de nous aider à éduquer, à enseigner ta parole, dans toute sa sainteté et dans toute sa simplicité à la jeune génération, pour que nous n'ayons pas honte d'être différents. d'être sanctifié par ton esprit. Et aide-nous à tenir bon, Seigneur, dans le bon combat de la foi. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen.